France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Emmanuel Macron recevra tout à l'heure à Pau les chefs d'État du G5 Sahel, à savoir ceux du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad. Il s'agit d'évoquer, voire de redéfinir, la stratégie de lutte contre le terrorisme au Sahel, mais également de lancer un appel à la mobilisation internationale. Et ce, alors que les armées locales et l'armée française font face à une recrudescence d'attaques de plus en plus élaborées et meurtrières. L'armée nigérienne a subi la semaine dernière la plus lourde perte de son histoire, 89 soldats tués dans une attaque djihadiste à Chinegodar. Le chef du gouvernement d'Union nationale en Libye appelle les habitants du pays à tourner la page du passé. Fayez al-Sarraj s'apprête à se rendre à Moscou pour signer un accord de cessez-le-feu avec son rival, le maréchal Haftar. Ce dernier a accepté ce week-end de stopper son offensive qui durait depuis plus de 9 mois maintenant. Changement de discours entre les deux ennemis, le chef du gouvernement demande à la population de resserrer les rangs pour se lancer vers la stabilité et la paix en Libye. Des roquettes se sont abattues hier sur une base militaire qui abrite des forces américaines dans le nord de l'Irak. 4 personnes ont été blessées. L'armée irakienne ne précise pas l'origine de cette attaque et ne fait pas mention des récentes tensions entre les États-Unis et l'Iran. L'actualité en France à présent est toujours la réforme des retraites. 24 heures après avoir annoncé le retrait provisoire de l'âge pivot à 64 ans, Édouard Philippe s'est montré déterminé à faire passer la réforme hier soir. Il était sur le plateau du 20h de France 2. Le Premier ministre souhaite par ailleurs que le projet de loi précise les mesures de retour à l'équilibre financier pour 2027. L'intersyndicale appelle toujours à de nouveaux rassemblements cette semaine. Et puis notons que s'ouvre aujourd'hui le procès du père Prénat. Cet ancien prêtre, défroqué l'année dernière, est accusé d'agression sexuelle sur mineur. Il risque jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
Histoire. Autrement sur France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Cette semaine, c'est la chute d'un empire. Pourquoi l'empire romain, si grand, si puissant, s'est-il effondré? Peut-être justement parce qu'il était trop grand. Ou est-ce en raison de la mort de ses dieux? À moins que les barbares ne lui aient fait la peau. Et si, tout bonnement, l'empire romain n'avait pas vraiment disparu?
Le cours de l'histoire, cette semaine à 9h05 et sur franceculture.fr. Voir le monde au plus près, LSD, la série documentaire, Perrine Cavran.
De la formation des volcans à leur surveillance, en passant par les galeries des mines d'or qui empoisonnent l'environnement, jusqu'aux cultures et à la dépollution des sols, cette semaine, LSD traverse la croûte terrestre du magma aux terres arables.
Voyage au centre de la Terre, LSD, la série documentaire, de lundi à jeudi à 17h et sur franceculture.fr.
Et à 6h03 sur France Culture, c'est l'heure de retrouver Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le réveil culturel, à la radio très tôt le matin, tous les jours de la semaine, ou quand vous voulez, pour une écoute en différé, en ligne ou en podcast. Tous les lundis, c'est l'actualité des livres dans le réveil culturel, et ce matin, Nina Bouraoui est mon invitée, à l'occasion de la sortie de son roman « Otage » chez Lattès, qui est tout à la fois un beau portrait d'une quinquagénaire, une femme du peuple, comme on ne dit plus, et en même temps, un manifeste politique sur les violences ordinaires, contemporaines, subi en silence et pendant des décennies par toute une partie de l'humanité. Bonjour Nina Bouraoui.
Bonjour.
Bonne nouvelle de la rentrée littéraire de janvier donc, votre livre Nina Bouraoui, mais aussi les autres livres, des livres portés par des femmes, on dit souvent d'ailleurs des femmes puissantes, mais osons le mot juste, des femmes en colère. On en parlera aussi avec Oriane Jeancourt du magazine Transfuge, également présente avec nous ce matin. Bonjour Oriane.
Bonjour Tofik.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Violences intimes, refoulées, violences au travail, tuent, violences privées et publiques, violences liées à son genre, violences liées à son milieu social, ainsi que les femmes vivent d'une somme de violences qui tentent toute une vie. Violence et silence d'ailleurs, le silence ici comme la pire des violences. La littérature permet-elle de briser ce silence-là, de briser les chaînes de domination? Alors l'affaire Vanessa Springora qui a marqué cette rentrée littéraire est-elle emblématique d'une parole enfin libérée? Votre dernier roman, Nina Bouraoui, n'est ni un témoignage, ni une confession intime, même si c'est un monologue intérieur. C'est la vie d'un personnage romanesque, d'un personnage de fiction. Elle s'appelle Sylvie Meyer, cette ouvrière de 53 ans, récemment larguée par son mari, soudain seule avec ses deux adolescents face à la dureté du monde du travail. Ce personnage si réaliste est paradoxalement votre retour à la fiction.
Oui, c'est vrai. Mais en fait, mon retour est presque un voyage vers le futur passé, parce que ce livre a été écrit en 2015 dans le sillon de Standard, et Standard déjà examinait les souffrances au travail, les souffrances intimes liées aussi à la misère économique. Et ce livre est né sous l'intention et le désir du Paris des Femmes, qui est un festival dédié aux auteurs féminins. À l'époque, il était inventé et dirigé par Michel Fitoussi, Véronique Olmy et Anne Rothenberg. Il a été joué au Mathurin. Et puis après, le texte, je l'ai, en 2015 et en 2016, je l'ai agrandi parce qu'il a été lu chez Agnès Varda à Bonnieux. Il a été lu à l'Opéra de Vichy. Et c'est un texte qui a eu du succès, qui a été joué il n'y a pas très longtemps à Valence.
Le mot qu'on puisse dire, c'est qu'il sort en livre à un moment très opportun. Hein.
C'est un texte qui était resté dans un tiroir chez mon éditeur. Mon éditeur a changé. Véronique Cardi et Anne-Sophie Stefanini l'ont découvert et on s'est dit, il faut le publier. Alors pas par opportunisme, pas du tout, mais parce que pour un écrivain, un livre qui est écrit, il doit sortir. Pour moi, ce n'était pas un livre qui était en train de mourir, mais bizarrement, c'était un livre qui était en train d'attendre. Parce qu'il me semble que nous autres, les écrivains, avons peut-être une extra lucidité, ou en tous les cas, avons beaucoup de temps pour entendre les bruissements, les grondements du monde. Et je crois qu'en 2015, il y avait peut-être déjà, ou peut-être en moi, parce que moi j'ai grandi dans un pays, l'Algérie, où les femmes sont, hélas, souvent en danger, et sont souvent des proies. Et je crois qu'il était très urgent pour moi à l'époque de parler de la violence que peut subir une adolescente. Et pour Sylvie Meyer, c'était comment, par la violence, on réactive une autre violence et comment elle va s'en décharger, comment elle va se purifier en prenant en otage son patron qui lui demande de transgresser sa morale.
Ah, bah vous le dites finalement. J'essayais de résumer le livre sans parler de cette prise d'otage, mais je rappelle que le titre...
Oui, mais on ne sait pas comment elle se termine.
D'ailleurs, c'est « Otage au pluriel », le titre de votre roman, Nina Bouraoui, qui vient de sortir chez Lattès, au pluriel, parce que vous considérez que votre personnage central, celle qui prend la voix depuis le début, celle qui se confesse à nous. Et elle se confesse à nous comme on prend le maquis, hein, c'est-à-dire c'est une battante. Elle a été otage ?
Oui, elle est otage de son chagrin amoureux, puisque son mari l'a quittée. Elle est otage de son patron, parce que c'est la reine des abeilles, ses petites ouvrières, c'est la reine des ouvrières, elle a le sens du mot, elle a le sens de la poésie. Elle est otage d'une urgence économique, parce que la CAGEX, où elle travaille, va très mal. Et son patron lui demande de constituer des viviers, d'établir des listes, et donc de devenir la délatrice, c'est-à-dire savoir dans cette entreprise, qui travaille, qui ne travaille pas assez, qui arrive en retard, qui sabote, qui a un potentiel qu'il n'exploite pas. Et elle, qui était si bienveillante, si protectrice de ses petites abeilles, va vraiment très bien faire ce que demande son patron. Et puis un jour, elle se réveille et ce n'est plus possible. Parce qu'elle n'est pas ainsi. Elle a une morale, c'est une femme. J'aime le mot bravoure, j'aime le mot courageuse. J'aime le mot aussi... peut-être qui est parfois utilisé trop, un peu à tort et à travers, mais des invisibles. Moi, Sylvie Meyer, je l'ai enveloppée, embrassée. Je suis devenue Sylvie Meyer et chez elle, il y a quelque chose de moi dans l'extra-lucidité de la fragilité des liens, de la fragilité de l'existence, de la précarité que peuvent connaître aussi les écrivains. Donc toutes mes angoisses, elles étaient là en 2015, elles sont encore plus là en 2020. Sylvie Meyer les a absorbées. Et puis, il fallait parler. Tous mes livres sont quand même inspirée et hantée par le thème de la liberté. Moi, depuis La Voyageuse Interdite, j'écris sur la liberté, sur la privation de liberté. Sommes-nous libres ?
En tant que femme et la liberté des femmes, on est bien d'accord.
En tant que femme, mais peut-être aussi en tant qu'être humain, est-ce que nous sommes libres ? Non, nous sommes prisonniers de notre passé, nous sommes prisonniers de notre histoire, nous sommes prisonniers de l'histoire du pays dans lequel on vit, et nous sommes prisonniers des forces de l'inconscient. Sylvie Meyer a une violence, au début elle la réfute, elle dit qu'elle n'a jamais connu la violence parce qu'elle l'a tellement intégrée, elle l'a tellement absorbée, elle l'a enterrée sous des années de silence. Et puis cette violence sur son patron, elle va devenir elle-même le violeur qu'elle a rencontré. Et tout d'un coup c'est son adolescence qui se déroule au bord d'une rivière, une bande de jeunes, ils ont 15 ans. Et Gilles, homme charismatique mais en fait... Un paumé, va l'attirer dans ses filets, va la flatter. Elle va tomber, non pas amoureuse, mais elle va être séduite, comme une adolescente de 15 ans peut être séduite par un beau parleur. Le Gilles a existé, je l'ai rencontré. Il ne m'est pas arrivé ce qui est arrivé à Sylvie Meyer, mais je me souviens très bien de la façon dont il était, comment il procédait, comment il nous entourait, nous, cette bande d'adolescents. Ce n'était pas vers Bordeaux, vers Périgueux, mais c'était plutôt à Saint-Malo. Moi, je me souviens, il avait une tenue de marin, il avait vraiment ce pull bleu marine et ce pantalon rouge. Il m'aimait un peu plus que les autres. Mais étrangement, je dois mon salut aussi à mon identité amoureuse. C'est-à-dire que, comme toutes les jeunes filles, je me suis retrouvée parfois dans des situations pas très agréables. Mais j'ai évité le danger grâce à mon homosexualité. Alors, au moins, ça aura autant l'homosexualité pour un adolescent, une espèce de parcours absolument parfois terrifiant, parce qu'il vous... Il vous implique et il vous assigne à la marge.
Ce qui vous a d'ailleurs permis d'écrire quelques très beaux livres sur le sujet.
Ouais. Il vous rend paranoïaque, il vous fait vivre une double vie, il vous enferme dans le silence et dans le secret. Mais cette homosexualité peut-être m'a détourné des chemins dangereux de certains hommes, parce qu'il y a un beau portrait de son mari, cet homme fort, cet homme brave, de leur mariage, cet homme qu'il aimait, qu'il a désiré. Ce n'est pas un livre du tout à charge contre les hommes, bien au contraire. C'est un livre sur la difficulté des liens et la difficulté de s'inscrire dans ce monde quand même, parfois, qui manque de poésie.
En tant que femme, toujours.
En tant que femme. Mais je suis une femme qui écrit.
Est-ce que la littérature permet justement de dénoncer cet état de fait, cette condition ?
Je crois que un écrivain a le devoir de restituer les bruissements et les effarements et les angoisses du monde qui l'entoure. Ça, c'est certain. Peut-être qu'il sera plus entendu parce qu'il va envelopper son propos de poésie, de beauté. Moi, j'ai toujours fait. Même ce monologue, il est parfois dur, il est parfois cru, il est parfois serré. C'est un livre que je dis un peu boîte crânienne. Je les aime bien, ces livres-là. Mais, il est aussi très lisible, visible. Je crois qu'il y a une mission de la parole. Moi, je suis une militante. Alors, je l'ai fait beaucoup pour parler de mon métissage, de ma double culture, du racisme qu'il y a pu avoir à l'intérieur de ma famille, mon père algérien, ma mère française. Je l'ai fait pour dire mon homosexualité, non pas pour m'assumer. Je m'assume à côté dans ma vie civile, mais pour entrer dans la solitude... des adolescents homosexuels, parce que je sais ce que c'est. Moi, à mon époque, il y avait Colette. C'était... Et il y avait Patricia Highsmith, Carole. Donc j'étais très contente quand, des années plus tard, le film est sorti. Mais la littérature sert à ça aussi. Et à dénoncer la violence. Et à dénoncer aussi, peut-être... Je pense que tant que les femmes dans notre monde seront des proies, toutes les minorités, toutes les fragilités seront... Les enfants seront des proies, les étrangers seront des proies, les travailleurs sans travail seront des proies. Je crois que c'est comme si tout passait par cette matrice. C'est comme si les femmes étaient cette espèce de, à la fois de pieuvre et à la fois d'être digne. Si on lui manque de respect, cette indignité se propagera sur les minorités.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
You don't own me, I'm not just one of your many toys. You don't own me, don't say
Ce jour-là, quand mon mari m'a annoncé qu'il s'en allait, je n'ai pas pleuré. C'était une nouvelle comme une autre que j'aurais pu intégrer aux nouvelles du jour. La courbe du chômage, le réchauffement climatique, la hausse des prix, la guerre, c'était à la fois important et pas du tout important. Cela faisait partie des affaires générales et non de mon intimité. C'était ça le plus étrange. Mon mari me quittait et j'avais l'impression qu'il quittait une autre femme. Je ne me suis pas senti concerné aussi peu. Ce n'était pas vraiment lui et ce n'était pas vraiment moi. Il partait, mais le mur, lui, restait. Et je ne l'ai pas vu partir. C'était juste une phrase comme ça, à l'exemple de « pense à acheter du pain, à payer la note EDF, à récupérer le pressing ». Le langage n'est rien quand on ne veut pas comprendre. Les mots deviennent aussi légers que des bulles de savon qui s'envolent, puis éclatent. Extrait d'Otage de Nina Bouraoui. C'est étrange que vous disiez que les mots ne peuvent rien, des fois, devant la fatalité de la réalité. Vous qui faites exactement le contraire, c'est-à-dire écrire des livres pour témoigner, écrire des livres pour changer les mentalités, ou du moins, comme vous l'avez dit, pour être solidaire avec ce qu'on n'entend pas, avec ce qu'on ne voit pas.
Je crois que dans la décomposition amoureuse, quand un amour se décompose et qu'il n'existe plus, je pense que vous serez d'accord que le langage et les mots ne sont rien, ne sont plus, ils sont déjà, ils sont passés. Je crois que le langage à cet instant, parce que on est aussi dans une peut-être une dimension morbide, la fin de quelque chose, la mort de quelque chose, et le langage n'est rien face à la mort.
Et face à la crise ?
Face à la crise, il faut parler, il faut dire, il faut raconter.
Vous sentez comment dans la France d'aujourd'hui, Nina Bouraoui ?
Moi, Impliquée,
inquiète, désemparée ?
Je la regarde beaucoup, je l'écoute beaucoup, je suis assez... je suis perplexe depuis quelques années sur ce rapport de ce que les gouvernants nomment le peuple, mot que je ne supporte pas, mais c'est ainsi, voilà, peut-être que la verticalité se procède ainsi. Je pense qu'il y a une sorte d'assourdissant silence que on ne s'entend plus, que les gouvernés et les gouvernants ne s'entendent plus dans les deux sens du mot. Il y a une sorte à la fois de désamour et de désimplication, de... Moi, je suis étonnée quand je sais que le travail, c'est difficile. Je sais l'urgence économique, je sais la misère économique, mais j'aimerais aussi entendre le travail, ça peut rendre libre, le travail, ça peut élever. Je sais qu'il y a des conditions parfois terrifiantes, mais j'aimerais aussi qu'on se dise l'éducation, c'est comme... les hommes et les femmes, les petits garçons et les petites filles. Quand est-ce qu'enfin, tout d'un coup, on va peut-être impliquer dès le plus jeune âge, se dire inviter un boulanger, un charcutier, un pâtissier, un écrivain, un avocat, un architecte, que sais-je, je ne sais pas, tous les corps de métier, et réintroduire la notion de passion, de mission, de vocation. Moi, la littérature m'a sauvée, a désarmée. J'étais une jeune fille très en colère. J'étais une enfant qui avait un trouble d'identité très fort. Les mots ne m'ont pas guérie. Ce n'est pas un médicament, un livre. Mais en revanche, m'ont permis, ma passion m'a permis de m'élever, de sortir de mon marasme, personnel, de sortir de mes névroses, de sortir de mes peurs. C'est ça le travail. Le travail, ça doit être ça. Le travail, ce n'est pas l'écrasement, ce n'est pas la condition indigne. Et s'il est dur, on doit avoir une compensation. Pourquoi en être privé ?
Oui, la crise, c'est devenu le truc à la mode. La crise mondiale, la crise générale, la crise économique et financière. Alors que nous, la crise, elle a planté son piquet au fond de nos âmes. On la connaît depuis longtemps, cette crise. La pire, la crise d'angoisse. Celle qui paralyse dès l'aube, car on ne saura pas de quoi demain sera fait. Qu'on a peur d'aller bosser. parce que ce ne sont pas de bonnes conditions de travail et que l'on redoute la phrase fatale. Compression du personnel. Désolé, bye bye, solde tout compte. Je ne peux plus rien faire pour vous, pas d'arrangement possible, passez à la compta, ne m'en voulez pas, je ne peux pas faire autrement. C'était cette phrase aussi qui me rendait folle, je ne peux pas faire autrement. C'est extrait aussi de d'Otage, Nina Bouraoui.
Oui.
Quand vous voyez les Français dans la rue, quand vous voyez ce mouvement social qui perdure, comment vous réagissez, Nina Bouraoui ?
Les soulèvements, la parole qui circule, tout d'un coup une sorte de vérité qui est dite. Peut-être que nous allons... Moi j'aimerais bien que tout redevienne horizontal et j'aimerais bien une sorte de retour à la politique citoyenne. J'aimerais bien un retour... de la prise de conscience que toi
un
et moi,
c'est à la politique citoyenne.
Que toi et moi, c'est pareil. Et c'est... que si on veut faire de la politique, ouais. Eh bien, c'est dans notre rue, c'est dans notre immeuble, c'est dans notre, c'est de proximité. C'est ça que je veux dire. Ce qui se passe aujourd'hui, on sent qu'il y a des jeunes maintenant de plus en plus qui sont investis, qui ont compris. Alors, pareil pour la nature, pareil pour l'écologie, mais la politique, tout d'un coup, peut-être que cette politique-là, il faut, ça suffit. Un président n'est pas un père. Moi, je suis toujours étonnée aussi des attentes, des désirs de tout d'un coup un président va tout régler, va vous prendre dans les bras avec une baguette magique. Non, nous devons être tous solidaires aussi de notre pays, de notre économie. Alors, je ne sais pas comment on fait. Moi, je ne suis pas une politicienne, mais c'est ce que je ressens. Je ressens qu'il y a une sorte de basculement dans ce que représente l'État, ce n'est plus comme avant. Il n'y a plus cette espèce avant, voilà, dans les années 70, 80, mais peut-être encore 90, il y avait quelque chose un peu loin de nous, un peu d'intouchable, un peu de trône, comme ça, loin. Aujourd'hui, non, c'est plus ça, c'est-à-dire qu'on dit « je ne suis pas d'accord, je ne veux pas, je veux autre chose, je veux que ça change ». Alors, il faut que le silence se brise et que chacun s'écoute, que chacun s'entende et qu'on ne s'affronte pas, mais qu'on marche main dans la main.
Et qu'advienne que pourra, comme pour le personnage de votre livre, Otage ?
Oui, mais ça, moi je suis très optimiste finalement. Parce que vous savez, je crois en la poésie.
Poésie, littérature et politique, cette rentrée littéraire de janvier a été marquée d'ailleurs par cette affaire de Vanessa Springora. Bonjour Auriane Jeancourt.
Bonjour à vous deux.
Et voilà, vous venez d'entendre Nina Bouraoui parlant d'Otage, ce livre qui tombe fort à propos, même s'il a été écrit il y a quelques années.
Oui, absolument. Et j'écoutais toujours avec plaisir la liberté de parole de Nina Bouraoui. Vous étiez déjà en couverture de Transfuge il y a quelques années.
Ah oui, quel beau souvenir. J'en souviens très bien.
Pour nous aussi. Et vraiment, je suis très heureuse que vous continuez comme ça à publier des livres passionnants. Et surtout, je trouve d'une grande liberté de penser. Et c'est ça qu'on demande aux écrivains, je trouve, c'est d'apporter un peu de complexité, un peu de recul, un peu de réflexion dans un monde qui parfois devient de plus en plus manichéen. Et voilà, oui, c'est pour ça que Vanessa Springora, c'est pour ça que Constance Debré, en couverture de Transfuge, sont deux femmes qui, par leur livre, à mon sens, apportent quelque chose, apportent un éclairage de réflexion, de complexité sur des questions qui sont parfois un peu trop martelées.
Et c'est aussi le rôle des femmes aussi dans la société d'aujourd'hui qui est remis en cause par ses plumes, par ses voix.
Oui, c'est-à-dire que bon, Vanessa Springora, on a beaucoup parlé de ce livre, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous révèle vraiment minutieusement, et c'est son sens du détail, son sens du récit qui est marquant dans ce livre, comment est-ce qu'un homme procède pour devenir un père, un amant, un prédateur dans la vie d'une jeune fille de 14-15 ans. Et vous l'avez dit, Nina Bouraoui, toutes les jeunes filles, enfin beaucoup d'entre elles, entre 14 et 16 ans, rencontrent des hommes comme cela. Et ce qui est frappant, c'est en effet que ce sont pas des brutes au départ, ce sont des gens très doux, ce sont des gens très séduisants. Et ça, Vanessa Springora l'explique très bien, comment est-ce que cet homme va peu à peu devenir son maître, avec beaucoup de tact, et beaucoup de, voilà, beaucoup de tact et vraiment de perversité, je crois, il n'y a pas d'autre mot.
Sauf que là, ça se passe dans le milieu littéraire. Nina Bouraoui, dans votre milieu, dans un milieu éduqué.
Oui, dans mon milieu, oui. Mais je pense que personne n'est à l'abri. Enfin, tous les milieux sont concernés. Et parfois, justement, le milieu littéraire peut être aussi un piège parce qu'un écrivain sait parler à une culture. On lui fait peut-être un peu plus confiance à tort, on l'a vu.
Constance Debré, c'est tout à fait autre chose, même s'il y a une colère dans son écriture et une envie aussi de dénoncer, même si c'est pas de la littérature de dénonciation quand même.
Non, c'est pas de la littérature de dénonciation, c'est un grand livre d'autofiction. Oui, Love Me Tender, c'est un titre assez ironique, puisque de tendresse, il n'y aura pas énormément dans ce livre. Ce livre, c'est l'histoire d'une femme, donc Constance Debré, qui est avocate, mère de famille, et qui, du jour au lendemain, a tout quitté. Elle a quitté son métier d'avocate pénale, elle a quitté son mari, et elle a divorcé. Elle avait un fils de 9 ans, donc elle s'installe dans une vie de divorcée, où elle a son fils une semaine sur deux, et surtout, elle va devenir homosexuelle. Elle va découvrir son amour des femmes et ça va la transformer. C'est ça aussi qui va l'amener à la littérature. D'ailleurs, elle a des très belles pages là-dessus qui vous intéresseront sans doute, Nina Mouraoui, vous qui avez tant écrit là-dessus. Comment est-ce que le désir porte l'écriture? Comment l'écriture porte le désir? Ça, c'est assez exceptionnel. Et donc, cette métamorphose qui va métamorphoser sa vie, puisque peu à peu aussi, elle qui avait toujours vécu dans le 6e arrondissement, bon, c'est la famille Debré, va tout quitter aussi. Elle va quitter son appartement, elle va prendre des petits appartements, voilà. Et si je puis dire, la conséquence difficile et tragique, c'est qu'elle va perdre la garde de son enfant. Puisque un tribunal absurde va, sous l'insistance de son ex-mari, lui retirer la garde de l'enfant, pensant que, devenant ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire une femme sans travail, c'est-à-dire une femme qui gagne beaucoup moins d'argent qu'avant, qui n'a plus d'appartement, de grand appartement, eh bien ne peut pas accueillir son fils. Et elle va raconter une année au cours de laquelle elle va, d'une part, vivre dans la douleur de la perte de cet enfant. Elle va tout essayer pour continuer à le voir, pour continuer à l'accueillir chez elle, mais elle va se heurter à la colère de son ex-mari et puis à tout un milieu qui est quand même assez réticent à ce qu'elle est devenue. Et d'autre part, une année, il faut bien le dire, de métamorphose, d'écriture et de découverte d'une certaine liberté, puisqu'on est face à une femme d'une quarantaine d'années, voilà, qui va découvrir que finalement, elle peut vivre sans la vie bourgeoise qu'elle avait jusqu'à maintenant, sans son métier, sans une vie de femme mariée, et même sans possession, puisqu'il y a des scènes extraordinaires où elle va abandonner ses livres, elle jette ses livres dans la rue, elle jette ses meubles dans la rue, elle a vraiment une ivresse de la liberté qui avec une ivresse du désir sexuel qui est extraordinaire, puisqu'elle raconte aussi toutes les femmes qu'elle rencontre, les femmes qu'elle va aimer, mais avec qui elle ne pourra pas se lancer dans une grande histoire d'amour, puisque c'est ça aussi qu'elle raconte, c'est que la perte de son fils fait qu'elle ne parvient plus à véritablement aimer. C'est vraiment l'autofiction dans ce qu'elle peut faire de plus passionnant, c'est-à-dire que à la manière de Montaigne, à la manière de Dubrovsky, à la manière de ce que vous avez beaucoup fait aussi, Nina Mouraoui, elle va s'analyser sans aucune tendresse. Elle va vraiment se regarder avec une lucidité et parfois elle ne s'épargne pas. Elle montre comment elle peut être dure, notamment dans les histoires d'amour. Et je trouve que voilà, elle fait ça avec une intelligence et une intransigeance exceptionnelles.
Love Me Tender de Constance Debré, bientôt dans le réveil culturel. Un coup de cœur transfuge. Autre coup de cœur, le dernier roman de Nina Mouraoui, notre invitée ce matin, Otage, édité chez Lattès. Merci d'être passée ce matin, Nina Mouraoui. Le réveil culturel, c'est tous les matins sur France Culture, une émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec aujourd'hui à la technique Guillaume Ledu. Bonne journée, à demain.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Sergueï Babayan, virtuose du piano d'origine arménienne, en récital à l'Auditorium de Radio France le mardi 28 janvier à 20h. Il interprète deux grandes pages de Franz Liszt, la vaste deuxième ballade et les funérailles composées à la mémoire de Chopin, et propose un ensemble d'extraits des suites de Rameau qui nous transporteront vers d'autres espaces. Entrez au cœur du concert. Renseignements et réservations, maisondelaradio.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. L'exécutif appelle à la fin de la grève contre la réforme des retraites. Le Premier ministre Édouard Philippe disait hier vouloir aller jusqu'au bout, mais il consent à enlever provisoirement l'âge pivot à 64 ans. Retour sur les récentes annonces dans un instant. Nous irons ensuite à la rencontre des citoyens qui participent à la Convention sur le climat. Lors de leur quatrième week-end de travail, ils ont commencé à élaborer des propositions. Le G5 Sahel se réunit aujourd'hui en sommet à Pau. Emmanuel Macron veut surtout relégitimer la présence de la France face aux djihadistes dans la région. Nous y reviendrons. Et puis le séisme en Haïti, c'était il y a 10 ans. Le pays, vous l'entendrez, a encore du mal à s'en relever. Le gouvernement a maintenant l'impression d'avoir fait sa part du travail, son pas en avant. Édouard Philippe a accepté ce week-end de retirer provisoirement l'âge pivot à 64 ans dans la réforme des retraites. Une concession, un compromis, dit-il plutôt, un compromis avec les syndicats réformistes qui ont aussi été écoutés sur la conférence sur le financement du futur système. Conférence qui doit débuter à la fin du mois et qui durera 3 mois. Le Premier ministre a défendu cet accord hier soir sur le plateau du 20h de France 2. Il a notamment répondu à la droite qui l'accuse d'avoir reculé face aux grévistes, Maxence Lambrec.
Non, ce n'est pas une marche arrière, mais bien une avancée. Le Premier ministre est venu défendre son compromis et adresse aux grévistes un message de fermeté.
C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de gens, notamment chez ceux qui bénéficient de ces régimes spéciaux, qui n'ont pas envie que ces régimes soient supprimés. Je leur dis à cela que nous allons aller au bout et que donc tous ceux qui les incitent à poursuivre la grève les envoient peut-être dans une impasse. Vous connaissez cette phrase, hein, il faut savoir terminer une grève.
Édouard Philippe,
on en est pas loin.
Pour le gouvernement, il n'y a donc plus de raison de faire grève et l'opinion devrait maintenant se retourner contre cette mobilisation. Mais cette réforme n'est plus financée, tacle la droite. Édouard Philippe lui répond.
Je suis déterminé sur l'équilibre du système, l'équilibre financier du système. Et je pense toujours, à titre personnel, que l'âge pivot est la meilleure façon de garantir le retour à l'équilibre du système actuel et du système futur.
Pas question de se dédire, il se veut cohérent, prêt à remettre l'âge pivot au printemps si les syndicats ne s'entendent pas. Mais cette crise l'a-t-elle fragilisé?
Vous savez, un Premier ministre, il est à Matignon aussi longtemps que le président lui fait confiance, aussi longtemps que la majorité le soutient, et aussi longtemps qu'il est à l'aise avec ce qu'il fait. J'ai le sentiment que les trois conditions sont réunies.
J'ai le sentiment que les trois conditions sont réunies, conclut-il en souriant. Il s'attend demain à une plus faible mobilisation et à un accueil chaleureux de sa majorité à l'Assemblée.
Car demain, effectivement, une nouvelle journée d'action est prévue par l'intersyndicale contre cette réforme des retraites. L'intersyndicale appelle également à défiler dans les rues jeudi prochain. Aujourd'hui, lundi, le trafic est toujours perturbé, plus légèrement à la SNCF. En Ile-de-France, les RER A et B rouleront toute la journée. Trafic partiel en revanche dans le métro à Paris. Autre chantier du gouvernement, la baisse programmée des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Dans un esprit de justice sociale, vaste chantier depuis la crise dite des gilets jaunes. Emmanuel Macron a donc voulu donner aux citoyens la possibilité de décider sur le sujet. Cela passe par une convention citoyenne qui rassemble 150 Français. Ils tenaient ce week-end leur quatrième séance de travail, lors de laquelle Emmanuel Macron s'est exprimé. Il leur a demandé de faire des propositions sans filtre. Véronique Rebérotte a suivi hier un des groupes de travail post-Macron.
On n'interdit pas aux gens de manger de la viande. Il faut simplement inciter les gens à manger moins de viande.
Marie-Josée et Yolande font partie toutes deux du groupe Se Nourrir. On y parle révision de la politique agricole commune, la PAC, de réduction de consommation de viande, etc. Pas de conclusion définitive pour l'instant. Les propositions concrètes sont loin d'être au point. Mais pour Marie-Jo, du Pas-de-Calais, l'invitation du président de la République à élaborer des propositions prêtes à l'emploi met la barre très haut.
Disons le côté législateur. C'est pas du tout notre tâche, on va pas savoir légiférer de toute façon. Ils nous demandent d'aller dans des projets de mesures aboutis. Donc on va, je pense, les aboutir au mieux qu'on pourra, mais nous ne sommes pas des juristes. C'est une interprétation, chacun peut interpréter, même sans le vouloir, différemment. Oui, je me doutais que ça allait être très compliqué.
Pas si compliqué que cela pour Yolande, venue du Finistère, si en face il y a la volonté de faire bouger les lignes.
Il faut du courage politique pour changer tout ce qui est politique agricole.
Et si on vous répond, c'est pas moi qui change tout seul la politique agricole commune et vous êtes gentil justement.
Il dit qu'il a beaucoup de pouvoir, donc on verra. Pour nous, les réponses qui auraient du bon sens seraient celles d'aller vers une agroécologie, en tout cas d'une agriculture qui respecte plus le vivant. Et ça, c'est possible. Mais il va falloir se battre contre les lobbies. Et pour ça, il faut du courage politique.
Du courage politique. Pour lutter contre le réchauffement climatique, il en faudra. Le constat est là unanimement partagé par les 150 Français de cette Convention citoyenne sur le climat.
C'était Véronique Rebérotte pour France Culture. Les abus pédophiles de Bernard Prénat doivent être jugés à partir d'aujourd'hui, 30 ans après les faits. Il est reproché à l'ancien prêtre des agressions sur des scouts dans les années 80 et jusqu'en 1991. L'attractivité industrielle de la France pour les investisseurs étrangers reste en tête des pays européens. Enquête du cabinet EY publiée ce matin. L'optimisme sur l'avenir de l'industrie française prévaut toujours sur l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, mais moins qu'un an auparavant tout de même. Le bilan s'est alourdi au Niger après l'attaque d'une base militaire jeudi dernier près de la frontière malienne. 89 soldats y ont été tués par des djihadistes. Ce nouveau bilan est annoncé alors que s'ouvre aujourd'hui à Pau un sommet du G5 Sahel. La France veut y recadrer sa stratégie militaire et renforcer surtout sa légitimité, Louise Baudet.
Les 4500 soldats français déployés au Sahel, une armée d'occupation qui alimente le conflit pour assurer sa domination sur l'Afrique utile, ses ressources en uranium, en or et en pétrole. À Bamako, Ouagadougou ou Niamey, cette diatribe anti-française gagne du terrain, procès en néocolonialisme qui exaspère Emmanuel Macron, surtout après la mort de 13 soldats français au Mali fin novembre. En visite dans la région le mois dernier, il fustige l'inaction des élites politiques qui s'accommodent du sentiment anti-français, voire l'alimente à des fins électorales, le regard parfois tourné vers d'autres puissances russes ou chinoises.
Quand vos enfants sont menacés, quand votre sécurité, votre souveraineté est menacée, regardez bien qui sont les soldats qui viennent se battre et tomber, les nôtres.
Je vois dans trop de pays prospérer, sans condamnation politique claire, des sentiments anti-français. Je ne peux pas accepter d'envoyer nos soldats dans des pays où cette demande n'est pas clairement assumée.
Tout est sur la table, y compris le retrait de Barkhane, affirme Emmanuel Macron, qui réclame un sommet du G5 Sahel. Il le convoque, s'offusquent alors ses homologues africains. Ce soir, un terrain d'entente devrait toutefois être trouvé. On devrait répéter que la France intervient à la demande des pays du Sahel, réclamer des renforts aussi, notamment européens, voire définir une zone prioritaire sur le plan militaire, celle des trois frontières entre Mali, Burkina et Niger, où se concentrent depuis un an les attaques les plus meurtrières.
Les deux rivaux libyens sont attendus à Moscou aujourd'hui pour signer les modalités du cessez-le-feu. Le maréchal Haftar et le chef du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, ont accepté ce week-end la fin des combats meurtriers en Libye. Ils duraient ces combats depuis près de 9 mois aux portes de la capitale libyenne, Tripoli. La médiation russe aux Turcs semble pour le moment avoir été entendue. Partons maintenant en Haïti, touché par un terrible tremblement de terre il y a tout juste 10 ans. Le bilan était catastrophique. Près de 300 000 morts, autant de blessés, des maisons effondrées, des hôpitaux et des écoles détruits. 10 ans plus tard, le travail titanesque des ONG continue. Nathanaël Charbonnier les a suivis à Port-au-Prince.
4h53 2010.
L'image à retenir, c'est celle de ces deux hommes côte à côte, la tête penchée, se recueillant avec leurs prothèses de plastique et de métal. Il y a 10 ans, Augustin Bidanchot était alors un étudiant.
J'ai perdu ma jambe, aujourd'hui je vis avec une mobilité réduite.
Quoi vous avez pensé pendant les 27 secondes de silence là, il y a quelques instants?
J'ai pensé que vivre avec un handicap, c'est extrêmement difficile, mais vivre avec un handicap en Haïti, c'est plus difficile pour ne pas dire que c'est un fardeau.
Être à la hauteur, Martine Bresson, artiste et à l'origine de ce rassemblement, ne dit pas autre chose. Pour elle, la date du 12 janvier doit servir dorénavant l'avenir d'Haïti.
Oui, de ne pas seulement rester sur le deuil, mais de commencer à réfléchir de comment qu'on voudrait que notre pays soit, qu'on commence à avoir un rêve.
Et pour réunir ces hommes et ces femmes blessés, autant dans le cœur que dans le corps, Haïti possède une force tout aussi efficace que la politique. La joie de vivre, ajoutée au sourire de cette femme, elle devient une force unique.
Tout ce que j'ai, je l'ai d'Haïti, donc ma joie de vivre aussi, ce sourire que je partage volontiers avec vous. Ça me vient aussi d'Haïti.
Des sourires, mais pas ceux des politiques. Les élus, eux, avaient commémoré le matin, dans la désunion, la date anniversaire.
C'était Nathanaël Charbonnier, envoyé spécial à Port-au-Prince. Nathanaël que nous retrouverons pour le reportage de la rédaction à 7h24, tout à l'heure sur France Culture. Le temps ce lundi sera humide sur le nord du pays, variable sur le sud, avec ce matin 3 degrés à Strasbourg, 6 à Lille, 7 degrés à Paris, 8 à Nice et 10 degrés dans la matinée à Bordeaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Clara Lecoq-Réal, bonjour à tous.
Il est 6h40 et nous vous retrouvons sur France Culture pour les enjeux internationaux. Ce matin Julie, retour sur les élections à Taïwan.
Oui, la présidentielle de samedi qui a reconduit au pouvoir celle qui avait déjà remporté l'élection de 2016, Tsai Ing-wen, candidate du DPP, le parti démocrate progressiste, qui refuse le projet de Chine unique défendu par Pékin, laquelle considère toujours Taïwan comme l'une de ses provinces. Le DPP défend une identité taïwanaise nécessairement contraire aux intérêts ou à la vision du parti communiste chinois, puisque je vous le rappelle, Taïwan a été en 49 le refuge des nationalistes face aux communistes. Alors depuis les dernières élections, Pékin œuvrait à ce que le parti rival de la présidente Tsai, le Kuomintang, reprenne la majorité à l'Assemblée nationale taïwanaise. En vain donc. Les résultats de samedi sont à mettre en regard de ceux obtenus par les candidats de l'opposition à Hong Kong aux élections locales de la fin novembre. Pékin donc de plus en plus contesté, que ce soit dans sa région administrative spéciale, c'est le statut de Hong Kong, ou dans ce qu'elle considère donc toujours comme sa province, Taïwan. Tsai Ing-wen, elle, propose que le dialogue reprenne. Bonjour Stéphane Corcuff.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes sinologue et enseignant-chercheur à Sciences Po Lyon. Vous êtes chercheur associé au Centre d'études françaises sur la Chine contemporaine. Alors la Chine, Pékin, a exercé avant l'élection, même bien avant, des mois avant, différentes sortes de pressions, que ce soit des déclarations martiales. Nous ne promettons pas de renoncer au recours à la force, a-t-on par exemple entendu, ou que ce soit pour reprocher à la présidente Tsai son soutien aux manifestants de Hong Kong. Alors Tsai Ing-wen a-t-elle gagné malgré la Chine ou grâce à elle, parce que les pressions auraient été contre-productives ?
Ben, c'est un petit peu les deux. Elle a gagné en dépit de la Chine et grâce à la Chine, mais je pense qu'elle a aussi gagné sans la Chine. C'est-à-dire que les élections sont le résultat d'une dynamique interne à cette société, à ce pays qui est Taïwan et qui, depuis maintenant pas mal d'années, bâtit sa... sa démocratie. Et évidemment, il y a un facteur externe qui est la Chine et qui joue à la fois comme repoussoir de tous les candidats, disons, qui pourraient lui être favorables, et puis comme aussi un appel à protéger la souveraineté du régime, hein, qui est incarné par tous les candidats qui refusent les pressions chinoises.
Pour gagner sans la Chine, encore faut-il réussir à maîtriser notamment le flux d'informations relativement biaisé qui est diffusé sur tous les écrans, dans les rues, partout, les lieux publics. Il y a des grands écrans qui rediffusent des télés qui, la plupart du temps, sont financés par la Chine, donc diffuse des informations chinoises. Comment Taïwan a pu maîtriser ce flux-là, a pu faire face aux cyberattaques et a pu répondre aux déclarations, alors je disais tout à l'heure, martiales, belliqueuses de la Chine à son encontre?
Alors à ce sujet, justement, Taïwan se trouve en fait l'un des pays les plus menacés directement par ces pays libéraux qui manipulent l'information. Hein. Et du coup, Taïwan est l'un des pays les plus les plus efficaces à mettre en place un nouveau système qui va certainement faire parler de lui à l'étranger. Un système centralisé par le gouvernement, plusieurs agences gouvernementales, ministères gouvernementaux et la société publique civile pour contrer ces fake news dans la mesure où elles sont effectivement, comme vous l'avez dit, très présentes. Que beaucoup de chaînes de télévision sont financées indirectement par la Chine et que Taïwan est une démocratie. Donc quelque part, on a là un pays frontière et Taïwan invente un système pour survivre, tout simplement, qui a montré son efficacité lors de ces élections, puisqu'en dépit de tout ce que la Chine a pu faire, non seulement sa candidate la plus détestée a été élue, mais ça a été Tsai Ing-wen le meilleur président élu depuis le lancement de la démocratie à Taïwan en 96.
Présidente détestée par la Chine, mais qui n'était pas non plus spécialement appréciée des Taïwanais il y a encore un an. En tout cas, son parti allait d'échec en échec. Qu'est-ce qui s'est passé en un an pour qu'elle puisse redresser la barre à ce point?
Je suis pas tout à fait d'accord, à savoir que quand même, elle a baissé dans les sondages sur un mandat de 4 ans, et c'était là, il y a un an, c'était au bout de 3 ans de mandat et de 3 ans de réformes profondes nécessaires qui ont mis à dos un certain nombre de perdants dans cette réforme, dont effectivement des privilégiés qui étaient dans des situations de rente tout à fait inacceptables.
C'est et bien.
Qui ont, ben, par exemple, des fonctionnaires d'État qui avaient le droit, depuis le Kuomintang, de placer leurs économies avec un taux de, d'intérêt à 18%.
Alors le Kuomintang, c'était le parti rival, le parti adverse qui, lui, soutient des relations très développées avec la Chine.
Voilà, qui, disons, ne soutient pas la réunification avec la Chine, ce serait invendable sur le marché électoral à Taïwan, mais pour se démarquer du projet, disons, indépendantiste ou de construction de la société nationale taïwanaise par le parti au pouvoir, celui de Tsai Ing-wen, disons, est coincé dans un entre-deux, n'ayant pas vraiment fait d'aggiornamento idéologique depuis Chiang Kai-shek, et qui est cet entre-deux développer des bonnes relations avec la Chine. C'est un pari qu'a essayé le président précédent Ma Ying-jeou, qui a échoué. Le pari, c'est de dire développons des bonnes relations économiques avec la Chine, dans l'espoir que nous puissions y gagner sur le plan économique et qu'un jour où la Chine sera démocratique, elle évitera de nous envahir et que tout sera dans un avenir heureux d'une réunification pacifique. Évidemment, c'est complètement théorique et ça ne fonctionne pas du tout.
Est-ce que c'est aussi une histoire de génération? Est-ce que le parti Kuomintang, donc, dont les liens avec la Chine sont connus, a fait, vous parlez d'un aggiornamento, mais à la faveur d'un renouvellement de génération? Est-ce que ce sont les jeunes du Kuomintang aujourd'hui qui disent on ne peut pas du tout parler de réunification avec la Chine? Vous avez dit, Stéphane Korkuff, ça ne passerait pas. Et puis le régime un pays, deux systèmes qui a cours à Hong Kong, ça ne passera jamais non plus. Est-ce que ce sont les jeunes du Kuomintang qui disent ça?
Oui, alors c'est difficile de répondre à votre question, néanmoins elle est absolument centrale. Je pense que le Kuomintang perd les jeunes. Il les a relativement motivés sous la présidence, au début de la présidence de Ma Ying-jeou, donc il y a déjà de cela 8 ans. Mais en fait, là, il les a complètement perdus. C'est-à-dire que les jeunes ont voté visiblement de manière massive, alors qu'ils étaient peu présents dans les élections avant, et ils ont beaucoup voté pour Tsai Ing-wen. Les jeunes aujourd'hui, et le Kuomintang essaye d'en envoyer en Chine pour voir la Chine et se faire un point de vue et essayer de renouer culturellement avec ce pays que le Kuomintang considère comme la mère patrie, ils reviennent et disent on n'a rien à voir avec ce pays, c'est pas le nôtre.
Il reste pas peu de jeunes qui partent travailler en Chine.
Ils partent travailler ou on les envoie, le Kuomintang coopère avec la Chine pour trouver des moyens de financer des voyages pour des jeunes Taïwanais en Chine. Ils reviennent et ils disent que ce n'est pas leur pays. Après, c'est effectivement une question de génération. C'est-à-dire que il y a des générations beaucoup plus anciennes au Kuomintang qui est un parti de vieux aujourd'hui. Hein. Quand on voit les manifestations de soutien au parti, les hiérarques du parti, c'est vraiment des gens plus âgés, beaucoup plus âgés que pour le DPP. Eh bien, ces gens-là, en fait, c'est pas forcément qu'ils n'ont pas fait leur aggiornamento et qu'ils sont sur la ligne d'il y a 50 ans de Chiang Kai-shek. C'est en fait un parti d'intérêt. Et ces gens-là se disent, notre intérêt, c'est l'économie, et l'économie, ça passe par des liens avec la Chine. C'est complètement simpliste, puisque la présidente actuelle a lancé avec succès, un relatif succès, une politique de développement de l'économie vers les pays d'Asie du Sud-Est. La Chine n'est pas le seul horizon économique, mais ces gens-là au Kuomintang ont inventé cette théorie comme quoi l'économie chinoise était le seul avenir possible pour la Chine, en fait, pour calquer ça sur quoi? Sur leur cadre idéologique de la Chine comme mère patrie que, pour le coup, ils ont hérité de l'époque de Chiang Kai-shek.
Alors, le candidat du Kuomintang est régulièrement présenté, et c'est un fait, comme le candidat de la Chine, plus ou moins Tsai Ing-wen, elle n'est jamais critiquée comme la candidate de Washington. La question d'une certaine forme d'ingérence américaine, si décrite ailleurs, n'est jamais remise en cause à Taïwan.
Si, effectivement, les Taïwanais, quand ils font un petit peu de géopolitique dans leur tête, ils savent que, en gros, l'avenir de Taïwan, sur un plan géopolitique, est dans les mains de Washington et de Pékin. Et peut-être que les élections de samedi a changé quelque chose à cela, à savoir que Je pense que c'est une élection historique au sens où, comme je le disais tout à l'heure, c'est la meilleure, la présidente la plus légitime de l'histoire démocratique de Taïwan en termes de vote. 8 millions de voix à Taïwan, on n'imaginait pas que ce soit possible. Et du coup, elle a une autorité naturelle et qui vient d'être confirmée. Rappelons ce fameux coup de fil de Donald Trump lors de son élection à Taïwan, là on a eu un remerciement officiel, des félicitations officielles de la part du vice-président américain. Il n'est pas exclu que Donald Trump le fasse dans les jours qui viennent. Et là on a manifestement un acteur qui compte. Et je voudrais dire que il y a quelque chose qui joue vraiment en faveur de Taïwan aujourd'hui. C'est beaucoup de facteurs en fait. Et notamment l'un des principaux qui est que l'image de la Chine se dégrade beaucoup. Le pouvoir de Xi Jinping est loin d'être aussi assuré qu'on le pense. Les critiques qui sont formulées à son égard, autant en dehors de la Chine qu'à l'intérieur, sont de plus en plus marquées. Ce qui est peu étonnant d'ailleurs quand on voit le degré de d'autoritarisme qu'il pratique. Et puis parce que la guerre commerciale sino-américaine profite à Taïwan. Et de tout cela, j'ai envie de conclure que dans un monde aujourd'hui où la désinformation, la guerre cyber devient un facteur structurant et extrêmement dangereux sur un plan global, eh bien Taïwan, c'est la démocratie frontière la plus menacée par le seul pays qui serait éventuellement à même, la Chine bien entendu, de produire un modèle totalement illibéral qui puisse être exporté dans le monde. Donc Taïwan devient un enjeu considérable, à mon avis il l'a toujours été, mais il l'est aujourd'hui plus que jamais, et aux commandes pour 4 ans encore de cette île à la présidence et avec une majorité, on a une présidente qui est rationnelle, qui est modérée, qui n'est pas provocatrice et qui a toutes les cartes en main.
Si je vous demande aussi si le soutien affiché des États-Unis vis-à-vis de cette présidente n'a pas posé de problème ou posé question au sein des électeurs de l'électorat taïwanais, c'est aussi parce que quelques jours avant l'élection a été votée une loi dite anti-infiltration qui interdit d'élire ou en tout cas de permettre à un candidat qui fera de la propagande ou sera payé par une entité étrangère de se présenter à une élection. Donc entité étrangère a priori, c'est la Chine qui est visée, en tout cas dans cette loi-là. Est-ce que ça coupe d'avance l'herbe sous le pied de n'importe quel candidat du Kuomintang ? Je veux dire, quelle importance donner à cette loi ?
C'est difficile de le voir, de le dire aujourd'hui, puisqu'effectivement, alors la Chine est explicitement visée, comme vous l'avez dit. Et si on réfléchit à tous les canaux secondaires mis en place par le Kuomintang pour travailler avec le Parti communiste en Chine, effectivement, là, on se dit qu'ils vont plus pouvoir faire grand-chose. Reste encore pouvoir prouver quels sont les mécanismes en place, les modes de financement, etc. Il était urgent que cette loi soit votée. Il était un petit peu malheureux qu'elle le soit juste avant les élections, puisqu'effectivement, comme vous l'avez dit, un certain nombre de gens y ont vu une manipulation du gouvernement sans réaliser forcément qu'elle était un bouclier nécessaire pour Taïwan. Et puis, évidemment, comme elle institue un mécanisme de contrôle par l'État, on a voulu aussi, mais ça c'est un petit peu le jeu politique et les critiques politiciennes, y voir le danger d'un État un petit peu trop présent. Les mêmes critiques ont été faites pour les mécanismes mis en place pour lutter contre la désinformation et les fake news. Mais tout cela, je pense, va se tasser. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'après cette nouvelle défaite du Kuomintang, il me semble que le parti d'opposition historique, le parti nationaliste historique à Taïwan, est en état d'électro d'encéphalogramme plat. C'est vraiment très étonnant, mais là, il survit localement par quelques élus qui ont pu jouer de leurs relations local pour être élu au Parlement, mais sur le plan national, le projet du Kuomintang est complètement vide.
Donc la position de la présidente Tsai, comme on l'appelle à Taïwan, c'est quoi aujourd'hui ? Parce qu'on dit elle est sur une ligne pro-indépendantiste, simplement elle ne demande pas explicitement l'indépendance. Est-ce que les événements à Hong Kong, est-ce que les derniers développements, les déclarations belliqueuses de la Chine à son endroit pour réintégrer Taïwan dans son giron, est-ce que ça peut modifier la position de Taïwan vis-à-vis de la Chine ?
Juste une précision, le mot indépendantisme de Taïwan, Taïwan est une invention politique qui date du début des années 50 par le Parti communiste, le Parti nationaliste, pour des raisons différentes, mais avec la même idée. C'est-à-dire de nier le fait que Taïwan ne soit pas une partie historique de la Chine comme il le présente. En fait, il n'y a pas à proclamer d'indépendance de Taïwan puisqu'elle est déjà indépendante en tant que République de Chine. Alors, c'est très compliqué, je fais un petit peu simple. Mais aujourd'hui, les indépendantistes sont ceux qui prônent la nation taïwanaise et qui, dans l'absolu ou dans l'idéal, chercheraient ou espéreraient qu'un jour, la République de Chine qui se réduit à Taïwan soit appelée, disons, République de Taïwan, par exemple. Mais personne n'a à proclamer cette indépendance parce que la République de Chine est indépendante et souveraine en droit international. Donc, l'appeler indépendantiste, c'est un petit peu exagéré. Alors, pour revenir au cœur de la question...
Elle est indépendante et souveraine, mais elle n'est pas reconnue toujours.
Enfin, alors, ça dépend par qui. C'est-à-dire qu'elle est reconnue par peu de pays. Mais reconnaissance par un autre pays, on n'a pas besoin d'être reconnu par un pays pour être de jure un État indépendant.
Et notamment Taïwan est souvent représenté dans des conférences internationales par l'avatar de la ministre de la Communication, Audrey Tang, puisque les communications digitales, enfin les nouvelles technologies sont très très présentes à Taïwan. Et donc voilà, c'est ce que dit souvent Taïwan, c'est que elle se moque d'être reconnue ou pas par des organisations internationales. Elle peut déjà être dans le monde entier grâce à cet avatar et à ses réunions. Stéphane Corcuff, la Chine a-t-elle besoin de Taïwan d'une certaine manière, toujours, parce que quand Pékin menace Taïwan d'une intervention, on peut aussi se dire que Taïwan dispose d'un savoir-faire dans les high-tech, les digitech comme on dit, dont la Chine a besoin pour ses nouvelles routes de la soie. Je pense aux usines TSMC, leader mondial des matériaux semi-conducteurs. Bon, elles sont sur le sol taïwanais, ces usines de ce groupe.
Oui, mais je pense que la véritable raison pour laquelle la Chine n'a pas encore attaqué Taïwan, c'est que la situation géopolitique est beaucoup trop compliquée pour qu'elle le fasse, et ça n'a guère à voir, je pense, avec l'économie.
Et vous vouliez élargir justement pour cette dernière minute, vous vouliez élargir sur le reste du monde. Finalement, d'après vous, l'enjeu n'est pas que les relations Taïwan-Chine, c'est bien au-delà.
Oui, je pense qu'effectivement, même si l'île de Taïwan est assez petite avec ses 23 millions d'habitants, une partie de l'avenir du monde s'y joue parce que c'est une frontière entre des modèles politiques et internationaux dont la Chine présente... cet exemple de régime illibéral et que Taïwan est juste en face est le pays le plus menacé.
Merci beaucoup Stéphane Corcuff d'avoir été avec nous. Merci d'être venu de Lyon pour rejoindre nos studios.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture, la Bibliothèque nationale de France et le Centre national du livre présentent « En lisant, en écrivant ». Une collection de masterclass littéraires en public avec de grands écrivains contemporains. Demain, à 18h30, retrouvez le romancier et scénariste anglais Ian McEwan lors d'une rencontre animée par Sylvain Bourmeau. Entrée libre, dans la limite des places disponibles, à la BNF François Mitterrand, Paris 13e. Programme complet, franceculture.fr.
Voir le monde, au plus près, LSD, la série documentaire, Perrine Kervran.
De la formation des volcans à leur surveillance, en passant par les galeries des mines d'or qui empoisonnent l'environnement, jusqu'aux cultures et à la dépollution des sols, cette semaine, LSD traverse la croûte terrestre du magma aux terres arables.
Voyage au centre de la Terre, LSD, la série documentaire, de lundi à jeudi à 17h et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h57,
bonjour Mais Guillaume Herner. Mais oui, bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
C'est votre humeur du jour Guillaume ce matin, Carlos Ghosn, plus Jérôme Carviel que Dreyfus.
Ah oui, alors je sais, dans la vie on a tous envie hein, d'être Dreyfus, quasiment devenu aujourd'hui un tic de langage, tout accusé explique qu'il est le nouveau Dreyfus, et d'ailleurs, parfois même, c'est peut-être vrai. Bon, pour le moment, Ghosn nous a épargné cela, et c'est tant mieux, parce qu'il possède peu de traits communs avec Dreyfus. Dreyfus était un personnage fallot, plutôt en retrait. Ghosn a, disons, une personnalité appuyée. C'est un personnage qui ose tout, avec notamment sa dernière sortie en date aujourd'hui dans le Figaro. Ghosn attaque Renaud Prud'homme, réclamant ses droits à la retraite, un peu moins de 800 000 euros par an. En voilà un qui a atteint l'âge pivot, sans préjudice, bien entendu, des autres sommes que Renaud lui doit. du doigt selon lui. Ghosn n'est pas un nouveau Dreyfus, mais un nouveau Kerviel en premier lieu parce que c'est son désir de domination, sa cupidité, diront certains, sa volonté de devenir empereur qui l'a mené là où il est. Mais c'est surtout parce que Ghosn divise les Français et d'abord les Français de gauche. A priori, un PDG accusé de fraude fiscale, je fais court, ça ne peut pas plaire à la gauche. Et bien pourtant si, comme cela a été rappelé ici, notamment par Frédéric Seize, Jean-Luc Mélenchon a expliqué qu'on ne pouvait pas reprocher à Ghosn son désir de s'évader. Mélenchon retrouvant là l'un des vieux réflexes de la gauche, le refus de la prison. Un réflexe conséquent, puisque si la gauche est contre la prison, elle est contre toutes les prisons, y compris les prisons de PDG. De la même façon, Kerviel, trader voulant surpasser les autres traders, Kerviel en est venu à symboliser la folie des banques et la démence de la finance, alors qu'il aurait pu uniquement passer pour un fraudeur. Et c'est cela finalement qui rend l'affaire Ghosn clivante. Carlos Ghosn a-t-il eu raison de préférer la liberté ou bien a-t-il eu tort de frauder le fisc pour ensuite piétiner la justice japonaise pendant des semaines? Je suis sûr que les Français vont s'écharper pour savoir s'il a eu raison de se faire la malle ou bien s'il a mal agi.